Chapitre 43.
Mélanie.
Le monde semblait plus sûr. La douce lumière du jour me parvenait à travers les rideaux et les volets, éclairant des surfaces familières. Le bois sombre de la tête de lit, la grande armoire que mes parents avaient fait construire l'année du centenaire, mes brosses à cheveux bien rangées sur la coiffeuse, comme d'habitude, et le couvre-lit de ma grand-mère ramené sur mes pieds. Comme il était agréable de rester ainsi étendu et d'écouter les gens s'affairer dans la maison. Howard et Nancy occupaient la chambre d'amis adjacente à la mienne, une pièce qui avait jadis été celle de père et de mère. L'infirmière Oldsmith dormait sur un lit à roulettes placé près de la porte de ma chambre. Miss Sewell passait le plus clair de son temps dans la cuisine, préparant à manger pour tout le monde. Le docteur Hartman demeurait de l'autre côté de la cour, mais tout comme les autres, il passait la majeure partie de son temps ici, veillant à satisfaire tous mes besoins. Kelly dormait dans la petite chambre adjacente à la cuisine, qui avait jadis été celle de Mr. Thorne. Il ne dormait pas beaucoup. La nuit, il montait la garde sur une chaise près de la porte d'entrée. Le jeune nègre dormait sur une paillasse, sous le porche de derrière. Il faisait encore froid la nuit, mais cela lui était égal. Justin, le petit garçon, passait beaucoup de temps auprès de moi. Il me brossait les cheveux, regardait les livres que je souhaitais lire et restait à ma disposition quand j'avais besoin de quelqu'un pour faire une course. Parfois, je l'envoyais dans mon ouvroir, où il s'asseyait sur le fauteuil en osier, jouissant de la chaleur du soleil, du ciel qu'il entreapercevait entre les branches et du parfum des nouvelles plantes que Kelly avait achetées et rempotées. Mes Hummel et mes figurines en porcelaine se trouvaient dans la vitrine que j'avais fait réparer par le jeune nègre. Il était agréable et quelque peu déconcertant de voir le monde par les yeux de Justin. Ses sens, ses perceptions étaient si aigus, si indépendants de son esprit conscient, qu'il y avait des moments où c'en était presque douloureux. Je ne pouvais quasiment plus me passer de lui. En conséquence, il m'était de plus en plus difficile de concentrer mon attention sur les limites de mon propre corps. L'infirmière Oldsmith et Miss Sewell, persuadée que je finirais par guérir, n'avaient pas renoncé à la thérapie qu'elles me faisaient subir. Si je leur permettais de poursuivre leurs efforts, que j'allais même jusqu'à encourager, c'était parce que je voulais à nouveau marcher, parler, regagner le monde des vivants. Mais j'étais un peu inquiète, chaque fois qu'elles semblaient constater une amélioration, car j'étais sûre que celle-ci ne pouvait qu'entraîner un affaiblissement de mon talent. Le docteur Hartman venait me voir chaque jour. Il m'examinait et me dispensait ses encouragements. Les infirmières me baignaient, me retournaient toutes les 2 heures, et faisaient bouger mes jambes afin d'exercer mes muscles et d'empêcher mes articulations de se rouiller. Peu de temps après notre retour à Charleston, elles avaient entamé une thérapie qui exigeait une participation active de ma part. J'étais capable de remuer le bras et la jambe gauche, mais il m'était alors difficile, sinon impossible, de maîtriser ma petite famille, si bien que tous ses membres, moi-même et les 2 infirmières exceptées, prirent l'habitude de rester assis ou couchés durant les 2 séances quotidiennes d'une demi-heure chacune, aussi calmes et aussi faciles à contrôler que des chevaux dans leur stall. À la fin avril, je voyais à nouveau de l'œil gauche et j'étais plus ou moins capable de faire bouger mes membres. Une étrange sensation imprégnait toute la moitié gauche de mon corps, comme si l'on m'avait injecté de la novocaïne à la mâchoire, au bras, au flanc, à la hanche et à la jambe. Ce n'était pas désagréable. Le docteur Hartman était fier de moi. À l'entendre, mon cas était exceptionnel. J'avais été privé de fonctions sensorielles durant les premières semaines qui avaient suivi mon accident cérébrovasculaire. Je souffrais encore d'hémiparésie du côté gauche, et pourtant mes perceptions visuelles n'avaient pas été atteintes, et je ne présentais aucun symptôme de paraphasie. Le fait que je n'ai pas prononcé un seul mot depuis 3 mois ne signifiait pas que le docteur se trompait en prétendant que je ne souffrais pas de ce trouble si fréquent chez les victimes d'incidents cérébrovasculaires. Je parlais chaque jour par l'intermédiaire de Howard, de Nancy, de Miss Sewell ou des autres. Après avoir écouté les comptes rendus du Dr. Hartmann, je tirai mes propres conclusions sur ce phénomène. Il s'expliquait en grande partie par le fait que j'avais souffert d'un infarctus ischémique à l'hémisphère droit du cerveau car, comme c'est le cas de la plupart des personnes droitières, les circonvolutions gouvernant le langage se trouvent dans l'hémisphère gauche de mon cerveau. Le docteur Hartmann me fit néanmoins remarquer que les victimes d'incidents aussi graves que celui qui m'avait affecté souffraient fréquemment de problèmes de langage et de perception jusqu'à ce que ces fonctions soient transférées dans d'autres parties du cerveau encore intactes. Je me rendis alors compte que de tels transferts se produisaient chez moi en permanence grâce à mon talent. Et à présent que mon talent avait cru dans des proportions considérables, j'étais sûr que j'aurais pu conserver toutes mes fonctions, langage, perception, etc., même si les deux hémisphères de mon cerveau avaient été affectés. J'avais à ma disposition une quantité illimitée de tissu cérébral sain. Toute personne que je contactais devenait un donneur de neurones, de synapses, d'associations d'idées et de stockage de mémoire. J'étais bel et bien devenue immortelle. Ce fut à ce moment-là que je commençais à comprendre pourquoi le jeu nous était à la fois indispensable et bénéfique. En employant notre talent, surtout de cette façon radicale qu'exigeait le jeu, nous rajeunissions. Tout comme on parvenait aujourd'hui à prolonger la vie des malades grâce à des transplantations d'organes et de tissus, nos vies étaient renouvelées grâce à l'utilisation d'autres esprits, grâce à une transplantation d'énergie, grâce à un apport d'ARN, de neurones, de tous ces composants ésotériques qui composent l'esprit à en croire la science moderne. Lorsque je regardais Mélanie Fuller, par l'intermédiaire des yeux neufs de Justin, je voyais une vieille femme endormie en position fœtale, aux bras émaciés criblés de tuyaux, à la peau blafarde étendue sur des os saillants. Mais je savais que les apparences étaient trompeuses, que j'étais à présent plus jeune que jamais, que j'absorbais l'énergie de mon entourage comme un tournesol absorbe la lumière du soleil. Je serais bientôt prête à quitter ce grabat, ressuscitée par cette énergie rayonnante que je sentais pénétrer en moi jour après jour, semaine après semaine. J'ouvris brusquement les yeux en plein milieu de la nuit. Mon Dieu, peut-être est-ce ainsi que Nina a survécu à la mort. Si la mort d'une petite parcelle de mon cerveau avait pu faire croître mon talent en force et en amplitude, qu'avait-il pu arriver au talent bien plus développé de Nina durant la microseconde qui avait suivi sa mort? La balle qui avait jailli du Colt Peacemaker de Charles pour pénétrer dans son cerveau n'avait-elle pas déclenché une version plus dramatique de mon accident cérébrovasculaire? La conscience de Nina avait peut-être envahi une centaine d'esprits serviles durant les heures et les jours qui avaient suivi notre affrontement. Ces dernières années, j'avais lu nombre d'articles sur ces patients maintenus en vie par des machines qui remplacent, stimulent ou simulent les fonctions de leur cœur, de leurs reins et de Dieu sait quels autres organes. Il ne m'était guère difficile d'imaginer la conscience de Nina, si pure et si déterminée, s'accrochant à la vie par l'intermédiaire de l'esprit des autres. Nina pourrit dans son cercueil, pendant que son talent lui permet de rôder dans la nuit, tel un fantôme informe et maléfique. Les yeux bleus de Nina émergent de ses orbites, soulevés par un flot d'asticots, tandis que son cerveau se régénère alors même qu'il pourrit. L'énergie de tous ceux qu'elle utilise pénètre en elle jusqu'à ce que Nina se lève, animée de la même jeunesse rayonnante que je sens en moi. Mais Nina n'est qu'un cadavre errant dans les ténèbres. Viendrait-elle ici? Tous les membres de ma famille restaient réveillés cette nuit-là, certains près de moi, d'autres me protégeant des ténèbres, mais il me fut impossible de dormir. Mrs. Hodge refusa de vendre sa maison jusqu'à ce que le docteur Hartmann lui propose et lui paie une somme ridiculement élevée. J'aurais pu intervenir dans le déroulement des négociations, mais après avoir vu Mrs. Hodge,
Je décidais de n'en rien faire. Moins de 5 mois s'étaient écoulés depuis que Georges, son époux, avait péri lors d'un regrettable accident. Mais la pauvre femme avait vieilli de 20 ans. Elle avait toujours teint ses cheveux d'une couleur châtain qui ne trompait personne, mais ils pendaient à présent en longues mèches blanches. Ses yeux étaient ternes. Elle n'avait jamais été séduisante, mais elle ne se souciait plus désormais de dissimuler ses rides, ses boutons et ses tavelures derrière une couche de fond de teint. Nous avons accepté ces conditions. L'argent ne nous posait bientôt plus de problème. Et dès que je revis Mrs. Hodge, je pensais aux diverses façons dont elle pourrait me servir durant les jours et les semaines à venir. Le printemps arriva avec grâce, comme toujours dans mon sud bien-aimé. Je laissais parfois Kelly me porter dans mon ouvroir, et même, rien qu'une fois, dans le jardin où, étendu sur une chaise longue, je regardais travailler le jeune nègre. Kelly, Howard et le docteur Hartman avaient installé une haute barrière autour de notre domicile, si bien que je n'avais rien à craindre des regards indiscrets. Mais je n'aimais pas m'exposer au soleil. Il était beaucoup plus agréable de partager les perceptions de Justin lorsqu'il s'asseyait dans l'herbe ou lorsqu'il rejoignait Miss Sewell qui bronzait nue dans le patio. Les jours se firent plus longs et plus chauds. Une douce brise pénétrait par mes fenêtres grandes ouvertes. De temps en temps, je croyais entendre les cris et les rires de la petite fille de Mrs. Hodge et de sa camarade qui jouait dans la cour. Puis je me rendais compte que ce devaient être d'autres enfants en train de courir dans la rue. Les jours sentaient la pelouse fraîchement tondue et les nuits embaumaient le chèvrefeuille. Je me sentais en sécurité.